Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons avoir des nouvelles du ciel avec Denis Latapie. Il est étudiant en astrophysique à l'Observatoire de Paris, mais il est aussi en formation à l'Université Jean Jaurès à Toulouse pour préparer le Dufraisse. Bonjour Denis.
Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver pour la deuxième fois sur ce plateau.
C'est quoi le Dufraisse ?
Alors le Dufraisse, c'est le diplôme d'université de formation de responsable de formation dispensé par des maîtres de conférences de l'université de Jean Jaurès à Toulouse. Donc formation encadrée par M. Thierry Mulin et Patrice Bussière, maître de conférences à l'université Jean Jaurès.
Oui. Et qui vous amènera à faire ?
C'est destiné à devenir donc responsable de formation, donc ça peut être responsable pédagogique ou responsable de centre de formation éventuellement.
Mmh. Très bien. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle du ciel, nous allons parler, et on va commencer avec lui d'ailleurs, parce qu'il nous manque quand même à tous, le soleil.
Justement, pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui ? Tout simplement, c'est que nous habitons dans les régions du sud de la France, réputées justement par notre cher ami le soleil. Alors même bon, s'il n'est pas très présent courant les mois de mai ou juin, parce que statistiquement, on est dans des périodes très pluvieuses, ça nous permet notamment, malgré ces soucis, si je peux appeler ça des soucis, de pouvoir traiter de cette étoile qui est notre soleil.
Oui, et peut-être le faire venir, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce soleil ?
Comme je l'ai expliqué lors de la première émission, le soleil, ce n'est pas une planète, c'est une étoile, un corps qui vit par sa propre lumière. Et cette lumière, justement, eh bien, elle est diffusée dans toutes les directions de l'espace. Le Soleil, c'est une étoile banale dans notre galaxie, la Voie lactée, qui est constituée de 200 milliards d'étoiles à peu près. Et à peu près 50% justement de ces étoiles sont des étoiles type Soleil, qui ont à peu près les mêmes propriétés physiques et chimiques. Mmh. Le Soleil, c'est un laboratoire pour nous, parce que ça nous permet de mieux comprendre bien justement les autres étoiles dans l'univers. Pour vous donner quelques caractéristiques, le Soleil, c'est une étoile qui est 109 fois plus grosse que la Terre. 109 fois.
Donc c'est énorme.
C'est énorme, en effet. Qui est située à une distance de 150 millions de kilomètres. Et 150 millions de kilomètres, ce n'est pas très commode à écrire sur le papier.
Oui. Et finalement, même si on se les représente, c'est pas si loin que ça finalement peut-être.
Oui, ça dépend par rapport à quelle échelle nous nous plaçons. Oui. Hein, à l'échelle, bien sûr, de l'être humain, ce sont des distances énormes.
Oui.
Maintenant, à l'échelle de l'univers, c'est peu, hein, c'est des distances relativement, je dirais, courtes. Et 150 millions de kilomètres, c'est une distance qui est importante en astronomie et en astrométrie, parce que ça nous permet de définir ce qu'on appelle l'unité astronomique. C'est beaucoup plus commode d'utiliser ce qu'on appelle l'unité astronomique, c'est-à-dire une unité astronomique est égale à 150 millions de kilomètres, pour mesurer les distances, notamment dans le système solaire. Mmh. Prenons un exemple, Vénus est située à 0,7 unités astronomiques. Donc pour connaître la distance, il suffit de faire 0,7 multiplié par 150 millions de kilomètres. Alors je pourrais citer d'autres exemples. Mars est située à 1,5 unités astronomiques. Jupiter à 5 unités astronomiques. Saturne à 9,5 unités astronomiques. Et ainsi de suite, hein, on pourrait continuer jusqu'au corps situé au fin fond de notre système solaire.
Oui.
Alors maintenant, pour des distances qui sont extra-système solaire, l'unité astronomique n'est plus suffisante. On est obligé de passer par le biais de d'autres unités telles que le parsec, le kiloparsec, le mégaparsec, qui sont d'autres unités de mesure. Oui. Histoire simplement de nous simplifier l'écriture scientifique. Oui. Le Soleil, c'est une grande réserve de gaz qui a une masse équivalente à 2 fois 10 puissance 30 kg, ce qui représente un 2 avec 30 zéros alignés à la suite en kilogrammes. Vous imaginez un petit peu la masse. Ça englobe quasiment la totalité des masses des corps du système solaire, en fait. Mmh. Donc on pourrait dire qu'il y a un équilibre entre la masse donc, du Soleil et la masse, la somme des masses de tous les corps qui constituent notre système solaire.
Oui.
Le Soleil, donc, c'est une masse fluide qui est composée à 75% environ d'un gaz qu'on appelle l'hydrogène. Et cet hydrogène se transforme en gaz plus lourd qu'on appelle l'hélium. On compte à peu près 25% de gaz hélium qui constitue notre Soleil. Et vous avez bien sûr d'autres éléments chimiques qui ne sont pas, je dirais, très représentatifs, tels que le carbone, l'oxygène, l'azote, qui sont des éléments fondamentaux et qui rentrent justement dans tous les mécanismes de création justement de la lumière que nous recevons et dont les représentants sont ce qu'on appelle les photons. Alors les photons prennent naissance à partir du cœur nucléaire. Vous avez énormément de réactions nucléaires. Hein. Vous avez 564 millions de tonnes d'hydrogène qui se transforment en 560 millions de tonnes d'hélium. Et la différence, donc de 4 millions, eh bien, cette différence de masse, ces 4 millions, sont transformés en lumière. C'est cette fameuse lumière qu'on reçoit sous forme donc de photons. Mmh. Et il faut savoir que les photons, donc qui prennent naissance au cœur même du Soleil, mettent plusieurs dizaines de milliers d'années pour arriver au niveau de la surface du Soleil. Sachant que le Soleil a un diamètre de 1 400 000 km de diamètre, donc ça fait un rayon de 700 millions de kilomètres. Les photons mettent à plusieurs dizaines de milliers d'années pour parcourir les 700 millions de kilomètres pour arriver à la surface.
Oui. Et combien ils mettent pour arriver sur la Terre une journée, finalement?
Alors ça, c'est une question très intéressante et très pertinente. Les photons mettent en fait 8 minutes lumière. 8 minutes lumière, donc ça veut dire que l'information qui nous parvient en fait du Soleil, c'est une information qui a lieu il y a 8 minutes en fait.
Oui, donc c'est énorme parce qu'il met des milliers d'années à arriver à la surface du Soleil, c'est bien
oui,
ce que j'ai
tout
compris.
À fait.
Et 8 minutes pour nous parvenir à nous.
Voilà, tout à fait.
C'est énorme.
Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'information que nous recevons du Soleil donc provient en fait du noyau, du cœur du noyau.
Mais
donc en réalité, ça remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années. Hein.
Je comprends.
Voilà,
je comprends très bien. C'est énorme ce que vous nous apprenez là, c'est inimaginable. J'ai envie de vous poser une question. Est-il vrai que le Soleil un jour va s'éteindre?
Oui, tout à fait, parce que comme tous les corps, enfin toutes les étoiles dans le système solaire ont des durées de vie, et leur durée de vie est fonction en fait de leur masse d'hydrogène initiale. Donc c'est en fait la quantité d'hydrogène nécessaire pour amorcer justement les réactions nucléaires. Donc il faut des conditions bien particulières de gravité, de pression, de densité de gaz et de particules. On définit ce qu'on appelle la masse de Jeans, qui est une masse de référence qui est une masse critique et qui permet justement de pouvoir comprendre à partir de quelle masse peuvent commencer en fait les réactions nucléaires au cœur même des étoiles. Alors des étoiles, il y en a de différentes natures, hein. Comme je le disais tout à l'heure, le Soleil est une étoile banale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des étoiles qui sont beaucoup plus importantes, hein. Vous avez par exemple UY Scuti dans la constellation de l'écu de Sobieski, par exemple, qui est une étoile qui est 1700 fois plus grosse que le Soleil. 1700 fois plus grosse que le Soleil. Mais vous avez également des étoiles beaucoup plus petites. Alors vous avez des étoiles, on va dire, normales qui sont de la taille de Saturne, par exemple. Saturne qui est une planète qui fait 10 fois plus grosse que la Terre, à peu près. Et puis vous avez, on va dire, des étoiles qui ne sont pas très normales, qui font à peine quelques dizaines de kilomètres de diamètre, hein, ce qu'on appelle les pulsars, hein, qui sont des étoiles à neutrons, des étoiles qui proviennent de l'explosion justement d'une étoile, qu'on appelle aussi supernova. Et le résidu de la supernova, c'est donc cette fameuse étoile à neutrons, une étoile dont la densité est considérable, hein, l'équivalent d'une cuillère à café de pulsar pèserait le mont Everest.
C'est énorme.
C'est énorme, c'est considérable, tellement que la matière est très dense. Donc la durée de vie d'une étoile est fonction donc ça de sa masse initiale. Mm-hmm. Alors une étoile type Soleil a une durée de vie de 10 milliards d'années. Et là, nous sommes à peu près à mi-parcours. Alors c'est vrai qu'on peut s'interroger que se passera-t-il dans 5 milliards d'années sur le plan de vue de l'humanité.
Ça allait être ma question qui allait découler de votre...
On peut se dire peut-être on vivra dans d'autres planètes ou peut-être tous nos efforts de recherche scientifique, entre autres toute la vie passée sur Terre durant ces dizaines de milliers d'années, tout ça sera peut-être réduit donc à néant. Donc le Soleil, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, à la fin de sa vie, donc dans à peu près 5 milliards d'années, eh bien, il gonflera. Et puis, il avalera donc les premières planètes telluriques telles que Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Et là, évidemment, tout le système solaire sera complètement chamboulé.
Mmh. Voilà. Est-ce qu'il y a plusieurs soleils ou est-ce qu'il n'y en a qu'un pour tout l'univers ?
Alors, pour tout l'univers, il n'y a pas qu'un seul soleil. Il y en a beaucoup, hein, notamment oui. Dans notre galaxie, il y a à peu près donc 200 milliards d'étoiles. Hein, donc les étoiles sont des soleils, hein, ce ne sont pas des planètes. Mais on a des soleils aussi dans d'autres systèmes, dans d'autres galaxies. Et des galaxies, on en compte des milliards.
Ah oui.
Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers ? Alors, ce qu'on appelle aussi l'exobiologie. Donc là, j'ouvre une parenthèse. Il y aura une conférence donnée par Jérémy Saulnier le vendredi 15 juin au balcon des étoiles à l'Observatoire de La Trappe. Le vendredi donc, 15 juin à 21h. Et il pourra mieux préciser tout cet aspect-là.
D'accord.
Bien entendu.
D'accord. Donc, si le Soleil englobe tout, on aurait intérêt même à chercher une terre d'asile, si j'ose dire.
Oui, mais bon, il faut en avoir les moyens technologiques. Alors, Bon, d'ici plusieurs milliers d'années, très certainement, ben, on sera peut-être dans d'autres systèmes.
Et si le Soleil englobe toutes ces étoiles et planètes qu'il a autour, est-ce qu'il va devenir lui-même une planète ? Ou est-ce que sa tour sera brûlée ?
En fait, il ne deviendra pas une planète. L'étoile, bon, elle va se gonfler. Et puis après, il y aura différents types de phénomènes. Alors après, c'est fonction aussi du type d'étoile. Pour des étoiles qui sont beaucoup plus massives, comme le Soleil, on aura un phénomène donc, de supernova, d'explosion. Donc, toute l'enveloppe extérieure du gaz s'échappera dans l'espace. Il restera donc un résidu, donc le pulsar que j'ai abordé tout à l'heure.
Oui.
Et puis, il y a des étoiles, au contraire, qui vont justement se contracter. Toute l'enveloppe va se contracter et devenir une étoile morte. Voilà, sans aucune activité particulière, forcément nucléaire ou autre. Voilà. Je voudrais vous parler des saisons également. Hein. Le matin, quand vous vous levez, vous avez dû remarquer que le soleil ne se levait jamais au même point à l'horizon. Pendant la période estivale, en été, vous avez le soleil qui se lève au nord-est et qui se couche au nord-ouest, donc qui va décrire une courbure dans le ciel qui va être beaucoup plus importante que pendant l'hiver, où le soleil il a tendance à se lever plus au sud-est et à se coucher au sud-ouest. Donc il a une trajectoire dans le ciel qui est beaucoup plus courte en hiver, ce qui explique en fait la durée en fait du jour qui est beaucoup plus courte en hiver qu'en été. Et puis vous avez d'autres phénomènes tels que les éclipses par exemple. Hein. Quand on parle d'éclipse du soleil, eh bien, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que c'est la Lune qui s'interpose entre la Terre et le Soleil. Sachant que la Lune et le Soleil ont à peu près le même diamètre apparent, eh bien, le disque lunaire masque le disque solaire.
Est-ce que justement le fait de ce phénomène que vous dites qu'on pense que c'est le même rond, est-ce que ce n'est pas aussi une question de distance ?
Alors en effet, tout à fait, parce que la distance en fait repose en fait sur les caractéristiques de l'orbite de la Lune. Comme ce n'est pas une orbite qui est parfaitement circulaire, c'est une ellipse, donc à certains points de l'orbite, la Lune sera à la distance la plus courte, et à d'autres moments, elle sera à la distance la plus longue.
Oui.
Donc ça veut dire concrètement que si la Lune est située à sa distance la plus lointaine de la Terre, ce qu'on appelle aussi l'apogée, eh bien, le disque apparent de la Lune sera légèrement inférieur au diamètre apparent du Soleil. Et dans ces cas-là, on verra un disque du Soleil, ce qu'on appelle une éclipse annulaire. Pourquoi ? Parce que ça aura un aspect d'anneau.
D'anneau, voilà. Vraiment très intéressant tout ce que vous venez de nous raconter. Donc, on espère qu'on aura fait plaisir au Soleil et qu'enfin, il va venir nous éclairer et nous réchauffer.
Oui, tout à fait. Là, c'est un peu court pour traiter tout sur le Soleil.
Hein, mais on y reviendra.
Parce que oui, tout à fait, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Oui. On pourrait passer plusieurs semaines, plusieurs mois à vous expliquer ce qu'est le Soleil, qui est riche d'informations pour mieux comprendre les autres étoiles dans notre univers. Et puis, il ne faut pas oublier que grâce au Soleil, il y a de la vie.
Et oui, tout à fait. On passe à l'éphéméride.
Oui. Concernant les éphémérides, vous pourrez toujours voir Vénus côté ouest après le coucher du soleil. Donc vous pourrez l'observer jusqu'à minuit 30 hein, à peu près. Ensuite Mars. Mars, donc vous pourrez la voir côté est. Elle se lève aux environs des minuit 15. Et donc, vous pourrez là avoir donc juste avant le Soleil. Donc, à partir de mi-juin, Mars aura un diamètre apparent supérieur à celui de Saturne, hein, ce qui est exceptionnel. Et tout ça parce que Mars s'approche progressivement de son opposition le 27 juillet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, l'opposition ? C'est un alignement de Mars, de la Terre et du Soleil. Mais là, la particularité, c'est que Mars sera à sa distance la plus proche de la Terre. Donc son diamètre apparent donc, sera beaucoup plus grand. Et ce qui est particulièrement intéressant pour l'observation de la surface. À partir du 6 juillet, Mars sera la planète la plus brillante du ciel sur 2 mois.
D'accord.
À peu près. Ensuite, bon, c'est tout un festival hein, parce qu'il y a Jupiter aussi qui est présent. Alors là, pour voir Jupiter, il suffit de voir direction sud. Jupiter se couche à 5 heures du matin, donc ça va être une planète de nuit. Et le 27 mai prochain, eh bien, Jupiter sera à proximité de la Lune. Donc si vous voyez une étoile brillante à proximité de la Lune, eh bien c'est Jupiter. Jupiter qui est une planète qui est 11 fois plus grosse que la Terre et qui a été observée la première fois par Galilée donc en 1609. Et puis il y a Saturne, célèbre pour ses anneaux, qui se lève à 22 heures côté sud-est. Et se couche vers 8 heures du matin. Alors, il y aura une opposition également de Saturne le 27 juin prochain. C'est-à-dire que Saturne sera à la distance la plus proche de la Terre. Donc, ce qui est particulièrement intéressant pour l'observer.
Oui. Est-ce qu'il faut du matériel spécial pour voir ces phénomènes ou est-ce qu'on peut le faire avec des simples jumelles ou à l'œil nu ?
Pour l'observation des planètes, bon, on peut commencer par à l'œil nu. Après, si vous avez de bonnes paires de jumelles, eh bien, vous pourrez apercevoir certains satellites de Galilée. Mais là, il faut vraiment des bonnes paires de jumelles ou des petites lunettes pour mettre ça en évidence. Et puis, l'anneau de Saturne. Et sinon, eh bien, ben, je vous invite à venir au balcon des étoiles, utiliser donc les télescopes. Du gros matériel jusqu'à des télescopes de 35 cm de diamètre et qui permet d'être carrément sur les planètes, si j'ose dire.
Oui. C'est à quel moment qu'on peut venir au balcon des étoiles ?
C'est ouvert généralement donc le week-end, à partir du vendredi. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il y a des stages aussi qui sont organisés pendant la semaine. Il y a également donc des conférences. Donc, je vous invite à consulter le site du Balcon des Étoiles www.les-pléiades.asso.fr. Et là, vous aurez donc l'occasion de pouvoir consulter tout notre programme que malheureusement, je ne peux pas développer ici parce que ça serait un peu long.
Oui, voilà. Je préfère quand même que vous m'ayez parlé du soleil.
Et je précise donc les prochaines conférences le vendredi 15 juin donc sur l'exobiologie, donc la vie ailleurs dans l'univers, conférence qui sera dispensée par Jérôme Saulnier. Et puis le vendredi 29 juin 2018, ça sera le ciel, modèle de perfection et d'éternité, conférence donnée par Béatrice Sandré. Voilà, donc les deux conférences sont le vendredi à 21h. Donc n'hésitez pas à venir, c'est ouvert pour tout public. Et bien sûr, on adapte notre discours pour les néophytes, entre autres. Voilà.
Bien. Mais Denis, merci beaucoup de nous avoir éclairés et réchauffés avec ces quelques rayons de soleil. Et on espère justement qu'il reviendra vite parmi nous et que les nuages vont fondre à son approche.
Oui.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci. Bonne journée. Au revoir.